Le livre des Actes au chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es rentré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux !» Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est rentré dans ma bouche !» Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel, et voici, aussitôt, trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant, parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées d'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà, nous avons ici un chapitre où il y a des murs qui sont détruits, des murs de séparation. Ce qui, entre les gens, va faire qu'il n'y a pas de relation. Un juif ne rentre pas chez un païen et ne va pas manger avec lui. Voilà, c'est comme ça. Et toi, Pierre, tu rentrais chez un païen ? Ah, oh ! Là, il y a des choses qui ne se font pas, là. C'est pas dans notre culture, c'est pas dans nos habitudes. Les païens, c'est des gens... Ah, c'est des chiens, ça. C'est des chiens, les païens. Et dans la mentalité juive, effectivement, tout ce qui n'était pas juif, ben on avait pris l'habitude au fur et à mesure des siècles de mépriser. Il y avait deux catégories d'hommes. La catégorie supérieure et puis le reste. Pourquoi la catégorie supérieure ? Ben parce que nous sommes le peuple élu. Nous avons été choisis par Dieu. On est juif de naissance, on n'est pas de parmi les païens. Ça, c'est un verset biblique que je viens de dire, cette expression. Et Dieu va faire tomber les barrières qui n'ont pas lieu d'être. Mais ça va au point où même les chrétiens, donc les juifs qui s'étaient convertis, qui avaient reconnu Jésus comme leur Messie, ils n'avaient pas encore compris que le salut en Jésus-Christ, ce n'était pas réservé aux Juifs. Ils n'avaient pas encore compris que Dieu aimait le monde, car Dieu a tant aimé le monde, pas le monde juif, le monde entier. Et ils sont ébahis, ils sont surpris de se dire, quoi ? Verset 18, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Mais nous, on pensait que non, les païens, de toute façon, c'était la lie de l'humanité et que Dieu n'allait pas s'approcher d'eux pour les sauver. Alors, cela nous donne un premier sujet important. Qui sont les personnes autour de nous que nous regardons avec mépris ou avec supériorité? Et on a besoin de réfléchir à ça. Quels sont les gens que je méprise, que je dédaigne, qu'à mon regard, des gens un peu inférieurs? Eh bien, le Seigneur veut me rencontrer sur ça, dire, attends, est-ce que tu as raison de mépriser une catégorie de personnes parce qu'il est comme ceci, il est comme cela, il appartient à ce cercle, il appartient... Tu dois mépriser ou tu dois accueillir? Et c'est assez fondamental de poser ces choses-là. Bien sûr, aujourd'hui, nous, en France, en Occident... Nous avons fait des tas de progrès dans ce qu'on va appeler le fait de ne pas discriminer, n'est-ce pas? Mais le précurseur, c'est Jésus. Et l'on va citer plusieurs catégories. Ici, nous sommes dans les séparations raciales. Est-ce que je n'ai pas une tendance, moi, à dire les étrangers, surtout ceux-là là, de tel pays, alors eux, ou souvent les Français par exemple à l'égard des gitans, tiens, est-ce que les Français aiment les gitans qui sont français aussi, vraiment, passons, mais je viens d'une école où je peux vous garantir que il y a les trois communautés et ça s'affronte. On est différent, on se méprise un peu, on se juge, on se croit supérieur. Tiens. Et la question des races, le racisme, c'est dans l'Église en premier que les barrières ont été brisées. Parce que la parole de Dieu a dit, il n'y a maintenant plus ni juif, ni grec. Vous arrêtez de dire, lui, il n'est pas juif, lui, il n'est pas romain, lui, il n'est pas grec, lui, c'est un scythe, lui, c'est un... Et le fait d'être uni avec le même Saint-Esprit, quelque chose de formidable. qui a mis des siècles, en fait, eh bien, à faire son chemin dans les mentalités. Mais dans l'Église, dès le début, le Seigneur dit les barrières, là, comme ça. Il va falloir cesser. Ce n'est pas forcément si évident. J'en veux pour preuve dans l'histoire même de l'Église, le fait qu'à un moment dans l'histoire de l'Église, des chrétiens authentiques se sont quand même demandé si par exemple les gens de couleur, les noirs, avaient une âme. Est-ce que c'est il y a si longtemps ? Cette interrogation, savoir si une personne noire a une âme. Alors que nous avons dans l'Écriture, dans la parole, un des anciens qui était un noir. On le retrouvera, mais un des dirigeants de l'Église de Jérusalem, mais c'est pas une question si vieille. Le Seigneur, il met les choses. Il dit, il n'y a plus ni homme, ni femme. Oui, une autre barrière, une autre manière de mépriser au cours des siècles, mais toujours aujourd'hui, dans certaines parties du monde, la femme, un être de second rang, de seconde classe. À une époque, on se demandait si les femmes avaient une âme. Sont-elles suffisamment intelligentes pour pouvoir voter ? Pas sûr, il faut un certain niveau intellectuel quand même, pas sûr que les femmes l'atteignent. C'était le débat. C'était le débat d'une société. Je rigole pas. Hein, c'est un vrai débat. Comment est-ce que je considère la femme ? Moi, j'ai la chance d'être un homme. Je suis supérieur. Cette pensée a fait beaucoup de tort. Seigneur, dans l'Église, a dit non, non, non. Là, vos barrières de mépriser les femmes et d'être dominateur et de dire on est supérieur, on est au-dessus, on vaut plus, on vaut mieux, on est plus précieux, on a plus de valeur. Il dit non. Les enfants. Ah, comment considérer les enfants ? Il y a 15 jours, j'ai écouté une émission très intéressante sur, l'héritage de Françoise Dolto. Hein, ce qu'elle a, donc c'était une psychologue, psychanalyste, spécialisée chez les enfants. C'était très intéressant cette émission parce que il disait en fait, avant Françoise Dolto, donc c'était pas il y a pas si longtemps, hein, il y a 50 ans maximum, hein, les enfants n'étaient pas considérés comme un être humain. Ici en France. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une mortalité infantile énorme, et parce que plutôt que d'avoir mal parce que nos enfants meurent, on se dit « ouais, c'est pas vraiment encore des êtres humains ». Et donc, on estimait qu'un enfant, par exemple, n'avait pas d'émotion. Qu'il n'avait pas mal, donc on, par exemple, on l'opérait sans anesthésie, puisqu'un enfant n'a pas mal, ce n'est pas un être humain. Oui, non, mais c'est au XXe siècle. Et c'était très intéressant cette émission de voir comment elle a révolutionné la mentalité, la conception de l'enfant en disant attends, un enfant c'est un être humain à part entière, c'est un adulte en devenir, ce n'est pas un être humain en devenir. Vous voyez la nuance ? Pourquoi s'étonner de tous les abus sexuels ? Quand un enfant n'est pas un être humain, abuser un enfant ce n'est pas abuser un être humain. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas d'état d'âme, on peut faire ce qu'on veut. Comprenez ? Ça va loin. Jésus le premier, dans l'Évangile. Lorsque les disciples ont repoussé les enfants, vous vous souvenez de cet épisode ? Parce que c'était, à l'époque, chez les Juifs, pareil. Cette distance entre l'adulte et l'enfant, en disant, l'enfant, c'est une sous-catégorie. Et quand les enfants s'approchent de Jésus, les disciples les repoussent. Et Jésus se fâche et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et il dit, par contre, celui qui scandalise un de ses petits. Et je pense que Jésus avait en vue tout le mal qu'on peut faire aux enfants, y compris les abus sexuels. Il dit, celui qui scandalise un de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pende une meule de moulin autour du cou et qu'on le noie dans la mer, plutôt que ce qui va lui arriver au jour du jugement. Parce que les enfants sont précieux. Et Jésus donnait la place et toute leur place d'être humain aux enfants. Oui, un enfant a des émotions. Oui, un enfant est sensible. Oui, un enfant peut croire en Jésus, peut passer par la repentance, peut mettre en œuvre dans son cœur, dans son âme, des tas de choses et être en relation avec Dieu. Mais curieusement, vous voyez, historiquement, jusqu'au XXe siècle en France, on avait du mal à considérer un enfant comme un être humain à part entière. Intéressant, hein ? Il a dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Il me semble que les habitants de l'Inde représentent le pays le plus peuplé au monde. Je me trompe ? Ça dépasse la Chine, je crois. Nous avons un habitant sur cinq au monde qui est indien. Et nous avons donc un habitant sur cinq qui, depuis des siècles, vit dans un système de caste. C'est-à-dire où il y a dans la société une hiérarchie. Il y a les castes supérieures, les castes moyennes, puis les inférieurs qu'on appelle les intouchables, les Dalits. Alors ceux-là, on peut les laisser crever sur le trottoir. On ne bougera pas le petit doigt pour eux. Parce que c'est la lie de l'humanité. Et toute la société indienne est fondée sur cela en disant, avec la réincarnation, hein, puisqu'on parle souvent du bouddhisme, mais le bouddhisme vient de l'hindouisme, hein, c'est le bouddhisme, il était indien, hein, Bouddha, on l'oublie. Voilà. Mais tu t'es réincarné en femme, pas de bol. Ouais, t'as pas dû être gentil, toi, dans ta vie. Tu t'es réincarné en intouchable, ben, t'as ta punition, ben, tu vas en baver, hein. Tu vas en baver, c'est normal, je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie d'avant, mais tu vas en baver, c'est normal. Puis on va t'en faire baver. Tu t'es réincarné en intouchable femme. Ouh ! Alors imaginez ce que vaut en Inde la vie d'une fillette chez les intouchables. On réunit tous les critères. On est un enfant, on est une fille, on n'est pas dans la bonne caste. Et ça, c'est un cinquième de la population mondiale qui a cette mentalité. C'est un exemple pour dire que c'est toujours actuel. Quand l'Évangile dit non, vous les Juifs, vous allez cesser de regarder les païens comme quelque chose de souillé et d'impur. Stop ! Non, on ne vient pas manger chez vous, on ne met pas les pieds chez vous, on va se souiller. Ah ! Je ne serre pas la main d'une femme, ça va me porter malheur, que sais-je, etc. Important dans la société, ce message, mais important pour nous aussi aujourd'hui, à chacun à notre niveau. Cela nous invite à réfléchir, qui sont les gens que j'ai un peu tendance à mépriser. C'est comme ça, c'est peut-être mes parents, ma culture, mon milieu. C'est vrai, je constate que j'ai tendance à, quand je pense à telle catégorie de personnes, je suis un peu moqueur, un peu dédaigneux, un peu, y compris dans l'Église. Le Seigneur nous dit non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le Seigneur a accordé la repentance aussi aux païens. Et on peut aussi rajouter tous ceux auxquels on pense, envers lesquels d'instinct comme ça on se trouve un peu supérieur. On dit, mais ça c'est n'importe quoi. Et le Seigneur veut m'apprendre à mettre le pied chez eux
et à manger avec eux, à rentrer dans leur maison, à me mettre à table avec eux, pour être en relation. C'est facile hein, de dire, moi je respecte tout le monde, mais par contre je reste dans mon petit cercle, dans mon petit monde à moi, etc. Il y a des gens qui sont les champions de la non-discrimination, par contre quand vous regardez tous leurs amis, ben, ce sont des gens comme eux. Seigneur nous invite, nous en tant que chrétiens, eh bien, à faire tomber ces barrières pour la gloire de Dieu et glorifier Dieu. Amen. L'ouverture, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux païens, s'ouvrir aux autres cultures, s'ouvrir aux autres catégories sociales, s'ouvrir. Néanmoins, dans cette ouverture, le Seigneur nous dit ce qu'est l'ouverture et ce qu'elle n'est pas. L'ouverture aux païens, est-ce que ça signifiait que les païens allaient rentrer dans les assemblées avec leurs idoles, avec leurs statues, avec leurs incantations, avec leurs superstitions? Oui ou non? Et ce sont des questions qui se posent. Ouverture, oui, mais jusqu'où l'ouverture? Que veut dire l'ouverture? Qu'est-ce qu'on ouvre, qu'est-ce qu'on n'ouvre pas? Dans quelques chapitres plus loin, nous aurons le fameux concile de Jérusalem, ce qu'on a appelé le concile de Jérusalem, qui va devoir trancher cette question en disant, bon, l'ouverture aux païens, on va demander au Seigneur ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Alors, le concile de Jérusalem tranchera certaines questions en disant « Non, ça c'est de l'ordre de la culture, ça ne sert à rien d'imposer, ça c'est nos traditions à nous, ça n'a rien qui vient de Dieu en soi, on n'impose pas, on les laisse, c'est pas leur culture, mais ils viennent avec. » Et puis d'autres choses en disant « Oula, ça par contre, non. Ça ils vont le laisser dehors parce que c'est contre la nature de Dieu. » Cette distinction d'ouverture ou de non-ouverture, plus tard l'Église la perdra de vue et c'est ce qui créera l'Église catholique. Hein, l'Église catholique qui va accueillir dans son sein tout le paganisme. Tu veux une statue? Va, prends une statue. Tu veux une amulette? Prends une amulette. Tu veux une incantation? Prends une incantation. Tu préfères prier qui? Tu préfères Jésus, Saint Antoine, Saint Truc? Choisis, tu choisis celui que tu veux, ça va bien. Tu veux Marie? Tu préfères une figure féminine à prier? Prends Marie, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'a fait l'Église catholique, hein, en disant, il faut s'ouvrir, ouvrons-nous. Et elle a laissé en fait rentrer ce qui n'est pas selon Dieu dans l'Église. Donc, le Seigneur nous dit ce qu'il faut ouvrir ou ce qu'il ne faut pas ouvrir. Tout à l'heure, on a cité l'exemple, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais Dieu dit, ce qu'est l'ouverture et ce qu'elle n'est pas. Il dit, l'ouverture, c'est que ta femme, elle est à tes côtés, à ton égal. Elle est aussi précieuse à mes yeux que toi tu l'es. Elle a autant de valeur que ce que toi tu as. Et Dieu va aussi dire ce que n'est pas l'ouverture. Et dans les Épîtres, il dira, par exemple, dans l'Église, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Il disait d'autorité sur l'homme, etc. Et Dieu va cadrer en disant, oui, il y a des barrières à faire tomber parce qu'elles ne sont pas selon Dieu, mais l'ouverture, ce n'est pas open bar, vous voyez, hein, c'est open bar, on fait ce qu'on... Non, il y a des choses, c'est bien de les ouvrir, il y a des choses, si tu les ouvres, eh ben, malheureusement, tu vas ouvrir à des difficultés, à des problèmes, parce que ce n'est pas selon ma pensée. On a parlé des enfants. C'est bien d'ouvrir aux enfants. La place de l'enfant. Mais l'enfant roi, par exemple, pas une bonne ouverture, ça. Hein. C'est la parole qu'il dit. Hein. Malheur au pays dont le roi est un enfant. La parole va recadrer. L'enfant est un être humain. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, les en empêchez pas. Mais il dit aussi, enfant, obéissez à vos parents. Il y a des choses qui ne changent pas.
les choses. Le Seigneur dit ça. Le rapport qui existe entre un parent et un enfant, ce rapport d'autorité, il vient de moi et il est bon. Et si tu l'enlèves, tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Et donc, pour nous, nous avons besoin de réfléchir, comme pour Pierre, comme pour les Juifs qui étaient là. Pierre est allé chez Corneille, chez un païen, il a mangé avec lui. Est-ce que c'était une bonne ouverture, une ouverture selon Dieu ou pas une ouverture selon Dieu? Et il y a des tas de choses dans nos vies où on se dit, est-ce que c'est bien que je m'ouvre à ça ou pas? Et des fois, c'est pas toujours facile d'y répondre. Comment est-ce que Pierre va répondre? Dis-moi, je me suis ouvert parce que le Saint-Esprit m'a montré, m'a demandé et que j'ai obéi. On y reviendra. Mais rappelons-nous, le Seigneur nous dit ce qu'est l'ouverture, mais il nous dit aussi ce qu'elle n'est pas. Il donne le cadre, il donne les limites. Alors il y a des questions comme ça. Quelle ouverture, par exemple, pour nous avec l'Église catholique? Voilà une question dans le monde évangélique. Doit-on travailler ensemble? Doit-on collaborer? Doit-on faire des campagnes d'évangélisation ensemble? Après tout, est-ce qu'on ne va pas commencer à se mélanger nos églises un petit peu? On fait des réunions de prière ensemble, etc. Et puis pourquoi? Une question aujourd'hui. Quelle ouverture? Qu'est-ce que nous demande le Seigneur? Tiens, l'ouverture envers les personnes d'attirance homosexuelle. Voilà une catégorie de personnes qui longtemps a été méprisée, persécutée. Quelle est la place du croyant? Quelle est la place de l'Église? Doit-il y avoir l'ouverture? Quelle ouverture? Est-ce que le Seigneur nous dit ce qu'est l'ouverture et ce qu'elle n'est pas? Oui. Il y a 2 ou 3 ans, l'Église protestante a dit, nous, l'ouverture pour nous, c'est de dire qu'aujourd'hui, un homme et une femme peuvent se marier ensemble sous le regard de Dieu. Pour nous, c'est ça l'ouverture que Dieu veut. Bon, on l'a entendu, hein, l'Église réformée. Moi, je ne trouve pas cette ouverture-là dans la parole. Par contre, je trouve l'ouverture où je dois aimer mon prochain comme moi-même, avec le bagage qui est le sien, avec les fêlures qui sont les siennes, avec les blessures qui sont les siennes, parce que nous avons tous été abîmés par le péché. Oui ou non? Oui. Pour l'un, c'est peut-être la colère, pour l'autre, c'est l'adultère, pour lui, c'est l'homosexualité, pour lui, c'est ceci, pour lui, c'est cela. Oui, on est tous abîmés par le péché et le Seigneur nous accueille. Parce qu'il a accordé la repentance aussi aux païens. Parce qu'il a accordé la repentance aussi aux meurtriers. Est-ce qu'un meurtrier peut venir à Jésus? Quelqu'un qui a tué? Oui? Oui? Etc. Et donc, nous avons besoin, hein, et parfois l'Église a dit, nous, ce type de personnes, on n'adresse même pas la parole. Et on ferme la porte du salut, de la repentance, du message de l'Évangile. Alors voilà plein de questions et nous devons être vigilants en tant qu'Église à nous ouvrir, ouverts, et à chercher sous le regard du Seigneur ce qu'est cette ouverture et ce qu'elle n'est pas non plus. Et être vigilants. Comme disait le Seigneur à Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche et tu réussiras. Terminons sur la question du reproche. Moi, j'aime bien ce passage parce que ça me fait penser à des tas de situations qui peuvent avoir lieu où vous sentez que ça chauffe. Ça chauffe là dans l'église. Les esprits s'échauffent. Là, Pierre, il allait manger chez les païens et les chrétiens d'origine juive de Jérusalem, ils ne comprennent pas cette manière d'agir, ils sont heurtés, ils sont choqués, et ils lui adressent des reproches au verset 2. Ils sont excités, ils sont énervés. Hein. La preuve, c'est qu'au verset 18, ils disent, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. S'ils se sont calmés, c'est qu'ils étaient passablement énervés. What, ça devait bouger. Et il y a plein de moments comme ça où on a agi d'une certaine manière et quelqu'un va venir nous le reprocher. Ou alors, quelqu'un agit d'une certaine manière et je vais aller le trouver pour lui reprocher. Et là, il y a de la tension dans l'air. J'aime bien ce passage parce que c'est l'un des deux passages bibliques où Pierre se voit adresser des reproches. Et le deuxième, c'est dans Galates, sauf erreur. Galates 2. Et c'est encore, bien sûr, à propos de la conduite à avoir envers les païens et les juifs. C'est toujours la même histoire, c'est Pierre, c'est un juif. Est-ce que les juifs vont manger avec les païens? Pas manger, là il est allé manger chez Corneille, on va lui reprocher. Et tiens, voilà que Pierre revient à Antioche. Toujours la même ville, Antioche, que dans notre chapitre. Une ville où les premiers chrétiens, qui étaient juifs, n'allaient parler de l'évangile qu'aux autres juifs. Vous vous souvenez de ça? Il y en a certains qui ont dit, mais attends, pourquoi on parle qu'aux juifs? On va parler aussi aux Antiochais de souche. Aux Antiochais de souche. Et le Seigneur les a bénis. Et l'Église a fructifié, l'Église est devenue nombreuse. Et historiquement, c'est dans cette ville à Antioche qui était la troisième ville de l'Empire romain. Il y avait Rome, Alexandrie, Antioche. Troisième. C'est dans cette ville que la première fois, les disciples de Jésus, on les a appelés des chrétiens. Des chrétiens. Eh bien, lorsque Pierre vient à Antioche, verset 11, Galates 2, 11, « Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Il était répréhensible, reprochable. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Bon, Pierre est à Antioche, il y a une grosse église non-juive, il mange avec eux, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais quand il y a des chrétiens d'origine juive un peu stricts, tu vois, qui arrivent, et quand elles furent venues, ces personnes de l'entourage de Jacques, il s'esquiva et se tint à l'écart. Hein, il a biaisé. Oui, c'est gentil ton invitation, mais je ne peux pas aujourd'hui. Je suis pris. Non, je suis pris, je ne peux pas venir. Il esquive. En fait, il ne voulait pas leur dire, écoutez, vous comprenez, si je vais manger chez vous, vous avez vu, il y a les autres cocos qui sont là, ils vont me voir, ils vont me critiquer, je vais m'en prendre encore plein la tête, que... Bon, il n'avait pas envie. Et alors, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même, qu'on a rencontré dans notre chapitre tout à l'heure, hein, Barnabas, cet homme bon qui est venu à Antioche pour voir l'Église, hein, envoyé par Jérusalem, Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Bon, bref, là, la discussion s'amorce. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que un coup, Pierre, on lui fait des reproches en acte 11. Eh bien, il avait raison. Et puis un autre coup, on lui fait des reproches. Eh bien, il avait tort. Le même Pierre. Moi, j'aime bien parce que ça nous montre qu'un coup, de toute façon, on va agir selon ce qu'il faut. Et on aura des reproches. Et puis, des fois, on n'agit pas comme il faut. Et les reproches sont justifiés. Et on a tous besoin de se dire, on est comme Pierre. On est comme Pierre. Oui, à un moment, on va pouvoir me faire de reproches et ça sera justifié. Et puis, oui, à un autre moment, on va me faire des reproches, mais je tiendrai droit dans mes bottes parce que selon Dieu, je sais que j'entends le reproche, mais j'agis comme le Seigneur me montre, avec justice. Et ça, ça nous ouvre sur quelque chose. Comment est-ce qu'on réagit quand on nous fait des reproches ? Ça, c'est une vraie question. Comment est-ce que je réagis quand on me fait des reproches ? Premièrement, comment est-ce que je réagis quand on me fait des reproches alors que je pense être dans mon bon droit ? Regardez comment Pierre fait. Est-ce qu'il s'énerve ? Il semble pas. Est-ce qu'il leur dit « Oh, dis donc, moi, j'ai pas à me justifier. J'ai... D'abord, c'est quand même moi le chef, là. Je suis quand même Pierre. Alors, tu baisses un peu le ton. Hein ? Je suis pas... Je suis apôtre. Donc, maintenant, tu descends d'un cran. Et puis, j'ai pas commencé à me justifier de pourquoi je suis allé manger chez les païens. D'accord ? D'ailleurs, je comprends même pas que ça te choque. Si tu étais un vrai chrétien spirituel, tu aurais compris que Dieu a donné la repentance aux païens. Tu n'es pas foutu de comprendre que Dieu a donné la repentance aux païens. Tu es là dans ton judaïsme. On est les meilleurs juifs et tout. Alors, j'ai pas à m'expliquer devant toi. Est-ce qu'il aurait eu tort de répondre comme ça ? Sur le fond, il a raison. Sur le fond, il a raison. Il est face à des gens qui ont des siècles d'arrogance judaïque et qui ont vraiment du mal à regarder des gens d'une autre nationalité comme étant des personnes aimées de Dieu, précieuses aux yeux de Dieu, autant qu'elles. Mais c'est pas comme ça que Pierre fait. Pierre va prendre le temps d'expliquer calmement. Il leur exposa d'une manière suivie. Et ça, c'est une leçon pour nous. Lorsque quelqu'un va me dire « Ouais, alors là, franchement, je comprends pas du tout que tu aies fait ça. » Eh ben, on va pas couper court à la conversation en disant « Bon, écoute, j'ai pas à me justifier. » Si on veut des problèmes... s'y prendre comme ça. On dit, écoute, on va en parler, mais alors on va prendre le temps d'en parler. Hein? De manière suivie, etc. On va, si tu veux vraiment qu'on en parle, par contre, on va prendre le temps d'en parler dans le fond. Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble et en parler pour de vrai? Ça veut dire que de l'autre côté, ben, il faut être prêt à écouter. Est-ce qu'on est prêt à écouter l'explication ? Vous savez, des fois, on a un reproche à faire à quelqu'un, on arrive avec nos reproches, la personne veut nous dire, écoute, si tu veux t'asseoir 5 minutes, on va en parler et je vais t'expliquer. Non, moi, de toute façon, c'est déjà tout vu, j'ai même pas besoin d'entendre ton explication, d'ailleurs, ton explication ne m'intéresse même pas. Voilà. Mais je suis choqué. Je te le dis. Oui, mais est-ce qu'à un moment, je suis prêt à entendre l'explication de la personne qui est en face de moi ? Et est-ce que je suis prêt à me laisser convaincre ? Plutôt que de camper sur mes positions par orgueil en disant « Moi, je pense qu'il a eu tort. De toute façon, il faut qu'il ait tort à la fin. Hein. » Parce que du coup, s'il n'a pas tort à la fin, c'est moi qui ai tort, je me retrouve comme une andouille, j'aime pas... Non, non. Et en fait, on a déjà tiré les conclusions. N'est-ce pas ? Et donc, on peut avoir du conflit, de l'opposition, en tout cas du désaccord. On n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne comprend pas, et on est un peu chauffé. D'une part, comme Pierre, on va expliquer, mettre des mots sur les choses, expliquer notre démarche, expliquer nos motivations, expliquer le pourquoi. En face, être prêt à entendre les explications, être prêt à admettre la démarche, et être prêt à reconnaître qu'on s'est un peu chauffé, je vais me calmer, et en fait on peut louer le Seigneur ensemble, en fait d'accord, ok. On n'est pas toujours prêt à retourner notre point de vue. Là, ils étaient prêts. Dans l'autre épisode, en Galates, là aussi, Pierre va se recevoir des reproches. Cette fois-ci, sont-ils justifiés ?
Oui.
Est-ce que Pierre accueille les reproches ?
Oui.
Et il y a une explication qui est donnée. Il y a un dialogue. C'est peut-être un mauvais moment à passer. Et on se met à la place de Pierre, qui avait quand même... C'était un apôtre, il avait un certain statut, réputation, enfin. Mais c'est pas grave. Pierre n'est pas sur sa réputation au point que Paul va pouvoir dire « Moi, je lui ai résisté en face et je l'ai repris publiquement. » Voilà. Parce qu'il était répréhensible. Et Pierre dira « Bah ouais, c'est vrai, en fait, j'étais répréhensible. Et quand j'ai tort, c'est tout. On va pas chercher il y a 14 heures. Quand j'ai tort, j'ai tort. » Et on peut tourner la page. Et nous avons besoin aussi de pouvoir, à des moments, admettre, de dire, ben oui, j'ai fait tel choix, et ben j'ai eu tort. C'était un mauvais choix, et tu as raison de me le reprocher. Et le reproche, c'est quelque chose de constructif, lorsqu'il est vécu selon Dieu, de part et d'autre. Si Paul n'avait pas adressé de reproche à Pierre, vous avez vu, ils ont dit en fait, Pierre il a commencé, puis les autres juifs, ils ont même entraîné Barnabas, enfin ça a fait boule de neige, enfin c'est... Il y a un moment, il faut que quelqu'un mette le nez dedans et dise, c'est quoi votre délire, vous faites quoi, c'est n'importe quoi, pourquoi tu fais ça, c'est pas normal. Le reproche est salvateur. Il y a un jeune homme à qui ses parents n'avaient jamais fait le moindre reproche de toute sa vie, nous dit la Bible. Est-ce que vous savez qui c'est ? Ouais, le fils de David, Absalom. Jamais le moindre reproche son père lui avait fait. Jamais. Donc c'est pour ça qu'il va faire un coup d'état, qu'il va prendre le pouvoir, qu'il va coucher avec les femmes de son père, qu'il va mettre à mort je ne sais plus qui. Enfin... Et la Bible nous dit, jamais son père ne lui avait fait le moindre reproche. Et c'est pour ça qu'il a grandi tordu. Le Seigneur nous donne les uns aux autres pour veiller les uns sur les autres. Et à un moment, on trouve que tel choix, telle chose, on va venir en disant, mais là, je suis quand même pas très à l'aise, enfin, ça me choque un peu, enfin, je suis pas trop d'accord, enfin. Voilà. Peut-être on aura tort, peut-être on aura raison. Dans un cas avec Pierre, il avait raison. Dans l'autre, il avait tort. Qu'importe. Ce qui est important, c'est que le dialogue puisse avoir lieu, qu'on puisse s'asseoir, parler, être prêt chacun à écouter, être prêt à admettre qu'on a tort ou raison, mais qu'ensemble, on cherche la pensée de Dieu et qu'on cherche véritablement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors
que nous puissions accepter le reproche, accepter de recevoir des reproches déjà quand on est reprochable, parce que le Seigneur le fait pour notre salut au travers des frères et des sœurs. Accepter de recevoir des reproches même quand en fait on n'est pas reprochable, et donc accepter de les recevoir, c'est-à-dire d'en discuter comme Pierre l'a fait, et de pouvoir répondre, et peut-être à la fin on se quitte réconcilié sur la même longueur d'onde. Le problème, c'est que des fois on ne va pas parler et on n'est plus sur la même longueur d'onde. Je vous donne juste un petit exemple récent, c'est amusant. Cet été, Stéphane Testino, que beaucoup connaissent, hein, de l'église, est venu me donner un petit coup de main pour lisser mes plafonds qui étaient tout... pas horrible, quoi. Voilà, et je ne savais pas faire le lissage. Il m'a fait le plafond entier de la chambre. Peut-être avec quelques défauts à 2-3 endroits qu'il n'a pas pu rattraper, etc. Enfin, ça, c'est ce que lui disait. Hein. Bon. On a peint. Les spots ont été posés. Spots, peinture. Et voilà notre Stéphane qui, 2 semaines ou 3 semaines après, revient. Et en arrivant, il rentre par l'allée gravillonnée, la fenêtre est ouverte, il voit le plafond de la chambre, il arrive, il fait « Oh, je suis pas content là !»«
Pourquoi t'es pas content ?»«
Bah, quand même, je me suis cassé les fesses là à lisser votre plafond et finalement vous avez remis du placo et vous l'avez fait refaire. » J'étais presque pas content. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, c'est ton plafond ça. On n'a pas refait poser du placo. Ah bon? Alors il va voir et tout. Finalement, avec la peinture, j'étais persuadé que comme vous trouviez qu'il n'était pas assez bien fait, vous l'aviez fait refaire. Par un professionnel, hop, on replaque. Enfin, voilà, quoi. Parce que d'extérieur, il l'a vu, il s'est dit, waouh, c'est pas le mien celui-là. Mais tant mieux qu'il est arrivé en disant, je suis un peu vexé quand même là. Heureusement. Parce que sinon, en fait, il continuerait de penser qu'on a fait refaire notre plafond parce que le sien n'était pas assez joli. Hein. Ce qui n'était pas le cas. Mais il aurait rien dit. Il serait reparti avec un peu cette frustration de dire « j'ai passé 2 jours à faire ce plafond, finalement... Oui. » Hein? Ben non, le malentendu a été dissipé. Voilà un exemple. Et voilà pourquoi c'est important de se dire les choses, de dire les choses, de les poser, de prendre le temps de parler, d'échanger, d'éclaircir, d'exposer les choses d'une manière suivie, comme dit, avec le pourquoi du comment, etc. Parce que sinon, ça crée des amertumes, ça crée des crispations, on ne revient pas dessus, puis ça fait des distances, ça fait des clans, etc. Donc nous avons ce matin vraiment cet appel, cet exemple à travers Pierre. Un coup, il reçoit des reproches, ils sont pas justifiés. Un coup, il en reçoit. C'était justifié. Dans les deux situations, il les accueille. Qu'on puisse faire la même chose. Qu'on puisse donner la place aux reproches parce que Dieu veut construire. Et quand c'est des reproches qu'on nous adresse et qui sont pas justifiés, si on peut les prendre avec patience, avec calme, avec spiritualité, Dieu va se servir de ça pour construire chez l'autre. Oui ou non ? Parce que Pierre a reçu les reproches, ils n'étaient pas justifiés, mais en pouvant en parler, eh bien Dieu a construit chez ceux qui étaient pleins de reproches au début, et à la fin, ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens ». Dieu s'est servi de cette situation, un peu de crispation, pour construire quelque chose dans le cœur de ceux qui avaient plein de reproches.
Mais si Pierre les avait dégagés d'un retour de main, ben Dieu n'aurait pas pu construire ça dans leur cœur. Et ils seraient restés en froid, plus se parler le restant de leur vie. Voilà. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Aide-nous à ne mépriser personne. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir aux personnes, peut-être envers lesquelles on a un peu de mépris, ou on se sent un peu supérieur. Et aide-nous à comprendre pourquoi, et surtout à comprendre que ça n'a pas de sens. C'est stupide. Et ça ne vient pas de toi. Alors Seigneur, aide-nous à faire tomber les barrières que nous pouvons avoir envers un tel, tel type de personne. Aide-nous aussi, tout en étant des chrétiens qui sommes ouverts à ce que tu veux nous ouvrir, aide-nous à chercher dans ta parole ce qu'est l'ouverture et ce qu'elle n'est pas, pour ne pas nous laisser prendre au piège du diable, qui lui aussi veut nous ouvrir au monde, veut nous ouvrir au péché, veut nous ouvrir au compromis. Et puis Seigneur, tu vois, personne d'entre nous n'aime recevoir des reproches. Et nous voulons te demander de nous aider à réfléchir à la bonne place des reproches dans notre vie, qu'ils soient justifiés, qu'ils soient injustifiés, et aide-nous à vivre ces situations avec une attitude qui vient de toi, une attitude selon ton cœur, pour que de ces situations un peu tendues, eh bien, tu construises à partir de cela quelque chose de meilleur dans le cœur de l'un de l'autre. Au nom de Jésus. Amen.